Onde Noire, bienvenue sur Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM et du web et de plein d'autres choses d'ailleurs.
Oui, bien sûr, et de l'univers. Non, bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, ben au sommaire de cette émission, on va avoir le très grand plaisir, dans une ou deux minutes, de recevoir l'écrivain Patrick Pechereau. Et puis, ça c'est la première partie de notre émission. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, un roman qui est un des grands plaisirs de lecture de cet été, un roman sorti à Ombre Noire. Et puis après, nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Marc Laherrer, qui reprend, on ne l'avait pas eu depuis la saison dernière, mais il reprend ses chroniques polars en direct évidemment, de Toulouse. Et il va, je crois, nous parler d'un auteur américain, Martin Waits. Donc, je vous l'annonçais.
Qui est anglais.
Qui est anglais, pardon. Patrick Pechereau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de ce très très beau roman qui vient de sortir, qui s'appelle Une plaie ouverte, qui est sorti il y a quelques jours à la Série Noire chez Gallimard. Juste deux petits mots de présentation. Donc le premier roman, Turaille, ça fait déjà presque 20 ans, sorti en 1996.
Oui, c'est ça. J'ai fait les 50 ans de la Série Noire et les 70 aujourd'hui.
Voilà. Si je ne m'abuse, 9 romans depuis à la Série Noire, justement.
Un petit peu
à la
plus,
Série Noire.
Une petite douzaine. Ouais.
Une petite douzaine. Il y a aussi des scénarios de bande dessinée.
Oui.
Des romans pour ados, pour jeunes et ados, ouais. qui sont très agréables à lire en tant qu'adultes. Et puis, je voudrais citer un très très joli petit éloge des coins de rue dans la collection Petit Éloge chez Folio. Parce que c'est un très joli petit ouvrage qui vous sied parfaitement. Vous qui savez si bien évoquer les lieux. Alors si vous permettez, l'évocation des lieux, une toute petite lecture avant de vous poser la première question et de situer ce roman. Les murs parlent, leur voix se colporte au carrefour. Les mots rapportés à ceux qui ne savent pas lire ou aux trop vieux qui n'y voient plus. Les murs bourgeonnent, fleurs de crépons comme on en gagne au Chamboultou. Au Valdingue, les grosses figures papier mâché, le jardin, le gendarme, le curé, le barbichou, qui ressemble tant à l'empereur que c'est un plaisir de le dégommer. Les murs proclament des lendemains de vaillance et les communes soulevées. La terre aux paysans qui la cultive, la mine aux mineurs qui l'exploite et l'usine à l'ouvrier qui la fait prospérer. La belle histoire des murs. C'est parti comme ça, ce roman qui se passe au 19e siècle, l'histoire de ces murs de Paris.
Ce roman est en fait une amicale suggestion du directeur de la Série Noire, Aurélien Masson, qui, une fois que j'ai eu fait deux ouvrages en collection blanche, eh bien, m'a demandé si je n'avais pas envie de refaire une Série Noire. Eh bien évidemment, l'envie était là, et puis je n'ai rien à refuser à Aurélien, et c'est lui qui m'a suggéré la commune, compte tenu de ce que j'avais écrit sur le Paris plus ancien, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, 1917-1912. Voilà, il m'a amicalement amené à remonter le temps et à situer mon intrigue durant la commune. Donc j'ai ajouté bien évidemment la guerre de 70, sans laquelle il n'y aurait pas eu probablement de commune de Paris. Voilà.
De commune de Paris. Et donc on va découvrir beaucoup de personnages, mais je pense deux principaux. Il y a Marceau. Et Marceau, qui a donc vécu la commune quelques années plus tard, semble reconnaître un personnage bien étrange, au prénom bien évocateur lui aussi, d'Anna. Et j'aimerais que vous nous racontiez comment Marceau redécouvre d'Anna et va replonger donc dans ses souvenirs.
Voilà, Marceau et Dana sont deux amis qui ont été liés parmi d'autres aux événements de la commune et qui ont été liés à ce moment-là. Et puis voilà, Dana a disparu après la répression sanglante de la fameuse semaine, d'ailleurs qu'on surnomme maintenant la semaine sanglante. Dana a disparu, 30 ans ont passé. Marceau n'a jamais oublié cette époque, même si sa mémoire l'a quelque peu transformé, et au détour d'une image, il va croire ou il va reconnaître, ça je laisserai le lecteur le soin d'en juger, il va penser reconnaître son amie Dana qu'il pensait enfui, disparu, caché quelque part. Et il va être amené à enquêter sur les traces de ce Dana et les traces de son propre passé à travers une quête un peu mémorielle et fantomatique. Et c'est à travers les balbutiements du cinéma que réapparaît aux yeux de Marceau cette espèce de fantôme de Dana.
Alors,
entre la Commune et l'invention du cinéma, il se passe. Enfin, l'invention du cinéma, non, c'est plus récent, mais entre la Commune et, disons, les premiers films qu'on voit vraiment apparaître publiquement dans les foires avant que ne se créent les salles de cinéma, il se passe 35 ans, hein, donc c'est très proche.
Et donc, il y a une évocation, enfin, c'est un roman, moi j'ai vraiment eu l'impression d'une évocation. Alors, maintenant, on sait que c'est Aurélien Masson qui est un petit peu à l'origine, mais dans le projet d'écriture, il me semble qu'il y a de multiples points de vue, la multiplicité des moments, des lieux, et en fait, l'idée de nous offrir des vérités, et surtout pas une seule. Enfin, surtout
non,
pas
non,
des vérités, pardon.
Tout à fait. Aurélien m'a mis sur le chemin de la Commune. J'aurais sans doute pas emprunté spontanément, mais j'aime bien les chemins de traverse. Donc à partir du moment où un ami vous y emmène, et ben on lui lâche la main et puis on y va. Donc une fois que j'ai accepté de travailler sur la Commune, j'ai bâti mon roman avec quelque chose qui me semblait nécessaire, c'est-à-dire qu'un recul pour ne pas tomber dans le pathos, parce que je trouve que la Commune est un moment historique qui est très chargé, trop chargé en pathos. Donc j'ai absolument voulu emprunter ce chemin de traverse dans le chemin de traverse et prendre un recul, y compris géographique et temporel, ce qui explique que la première des quatre parties qui composent le roman se déroule aux États-Unis pendant à la fin de la conquête de l'Ouest, qui était une époque contemporaine de la Commune, hein, entre la fin de la guerre de sécession et le début de la Commune. Il y a dû se passer 5 ans, je crois. Donc chronologiquement, c'était tout à fait jouable et ça permettait de prendre ce recul, y compris géographique. Ça me semblait important pour pas tomber dans les images d'Épinal que je n'aime pas ou dans le pathos. Et donc le roman est construit en 4 parties. Il y a cette quête via un détective privé de l'agence Pinkerton qui est sur les traces de Dana, commandité par Marceau. Il y a une partie pendant les événements de la Commune, donc qui est chronologiquement, elle, bien évidemment, antérieure à la première partie, si je puis dire. Et puis deux autres parties après, qui se situent après la Commune, où on voit le vieillissement de Marceau, un certain brouillage de sa mémoire, difficile pour lui de faire la part entre ce qu'il a vécu et ce que tous ses souvenirs et sa mémoire ont pu greffer sur son propre vécu, l'ensemble composant cette espèce d'enquête sur un personnage fuyant, disparu et quelque peu mystérieux qui est Dana.
Une
vision des événements qui donne plusieurs clés d'entrée et puis une vision de la Commune qui n'est pas le bloc cimenté, homogène qu'on nous présente trop souvent. Les communards étaient partagés comme le sont la plupart des révolutionnaires lorsqu'une révolution éclate. Hein. Je veux dire, ça c'est le schéma classique des révolutions avec ceux qui veulent l'emmener dans un endroit et ceux qui essayent plutôt de l'emmener vers un autre.
Et justement, vous évoquiez le fait il y a des petites parties vous parlez aussi des États-Unis et il y a cette espèce de parallèle pas historique, mais il y a eu un temps, vous évoquez toutes ces utopies qui circulaient en France, et il y a un parallèle avec ces communautés qui ont essayé de s'implanter, des migrants, et ça c'est une histoire aussi qu'on a occultée, comme un peu la Commune d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ce qui m'a intéressé dans cette espèce de parallèle, si on peut dire, entre un certain nombre de figures qui ont fait la conquête de l'Ouest ou qui sont illustrées dans la légende de l'Ouest et les communards, c'est que les uns étaient partis vers des horizons nouveaux pour connaître une vie meilleure, soit les nombreux chassés d'Irlande par la famine ou chassés d'autres pays par des conditions sociales qui les poussaient à migrer. On parle beaucoup aujourd'hui des migrants économiques et des réfugiés. Un certain nombre de fondateurs des États-Unis font partie de ces gens-là qui allaient chercher l'aventure, un monde nouveau, qui poursuivaient des rêves. Et puis les communards qui cherchaient dans un périmètre très très fermé, qui était le Paris assiégé, à bâtir un monde nouveau et qui poursuivaient aussi leurs rêves. C'est ce qui m'a plu dans ce parallèle historique, voilà, que j'ai un petit peu forcé. C'est ces gens qui étaient en quête d'absolu, et parmi eux, comme vous le rappeliez, des gens étaient déjà partis aux États-Unis pour fonder des communautés qui s'appelaient pas encore anarchistes, ni voilà, c'était les penseurs du socialisme pré-marxiste, on va dire, comme Fourier, Saint-Simon, enfin ceux qu'on range habituellement dans la famille plus ou moins proche des grands ancêtres du socialisme, qui avaient semé cette petite graine d'une vie alternative, et des gens menaient des expériences de vie communautaire, notamment aux États-Unis, à travers un certain nombre de lieux voilà, qui ont existé et où se sont déroulées ces expériences. Quelqu'un qui est par exemple très connu en France aujourd'hui, puisqu'on peut encore visiter son familister, hein, le fameux Godin. L'inventeur des très beaux poils, les Mirus et autres, avait investi, il a été au début de sa carrière un peu d'industriel, il a été en partie ruiné parce qu'il avait investi dans une de ces communautés saint-simoniennes aux États-Unis. Oui, c'est quelque chose qui a existé et qui n'est pas quelque part, je dirais, étranger à toute cette pensée qui a évolué au fil du temps et qui a fait émerger ces modes de vie communautaires dont on a pu voir la résurgence dans les années 70
et puis il n'y a pas si longtemps que ça.
Dans certaines coopératives.
Ouais. Et donc, Marceau, en enquêtant, en faisant en fait une quête, même plus qu'une enquête, à mon avis, va aller dans ses souvenirs retrouver plein de personnages. Alors, parmi les personnages, il y a des artistes qui ont participé à la Commune, Verlaine, Courbet. C'est important parce que les artistes, ils ont une vision un peu différente de la réalité, de notre réalité peut-être.
Ce qui était important, c'est à travers eux, j'ai voulu montrer déjà une bande d'amis, voilà, qui était relativement jeune, enfin bon, pas non plus des tout jeunes pour certains, mais qui se connaissaient, qui pouvaient ensemble avoir des moments de liesse à cette époque-là, liés à l'espoir, liés sans doute à la surexcitation d'être plongé dans ce bain révolutionnaire, qui étaient des artistes engagés, comme Jules Vallès, comme Courbet, comme d'autres, hein, que je n'ai pas cités, comme André Gilles, qu'on a un peu oublié, qui a été un grand caricaturiste et un peintre aujourd'hui un peu oublié pour ses tableaux, ou des poètes comme Verlaine qui a participé, c'est vrai, dans un cercle plus éloigné à la Commune de Paris. Et c'était cette immersion des couleurs pour la peinture ou du rêve pour la poésie qui m'a semblé intéressante de souligner à travers leur mise en mouvement dans mon roman, mais une mise en mouvement qui relève à la fois de l'imaginaire, bien sûr, mais aussi de la réalité, puisque ces gens se connaissaient. Pour certains, ont milité ensemble. Je pense notamment à Vallès et à Courbet et à André Gilles. Donc il y a là un terreau historique, voilà, que j'ai pas eu envie de louper. D'autant qu'il faut savoir que le Paris et la France culturelle, artistique et intellectuelle étaient majoritairement opposés à la Commune, qui a été très vite montré comme le ramassis, en gros, d'une bande de braillards assoiffés de sang. Hein. À l'époque, on n'avait pas besoin d'Internet pour colporter des images toutes faites, ce qui explique que des artistes socialement engagés, comme pouvait l'être Georges Sand ou Émile Zola, ou même Victor Hugo au début, bien qu'il ait évolué après, étaient des gens qui étaient tout à fait opposés à la Commune. Alors Hugo était opposé à la Commune, mais il a défendu... une fois la Commune massacrée, il a défendu les communards. Les communards. Il n'a pas été pour rien dans la loi d'amnistie.
Et puis, vous parliez des gens très jeunes, des artistes très jeunes, au fil du roman, et c'est pas la première fois dans vos romans, est évoqué l'homme aux semelles de vent, qui a été un témoin très très jeune de cette Commune, Rimbaud.
Voilà, Rimbaud. Alors là, j'ai cultivé la légende, puisque une légende veut qu'il se soit trouvé à Paris au moment des événements de la Commune, hein, en 71. Et c'est une légende qui a longtemps couru. Mais personnellement, je la trouve belle, donc voilà, je ne me suis pas gêné pour pour m'y engouffrer, sachant que la réalité historique est tout autre, ce qui n'a jamais été à Paris au moment de la Commune. En revanche, il est vrai qu'on fait de Rimbaud un personnage idéalement communard, de par sa révolte, par sa vie en rupture. Et il est tout aussi vrai que nombre de poèmes de Rimbaud font directement référence à la Commune. Je citerai pour moi le plus beau poème, qui est le Bateau ivre, où Rimbaud parle des yeux horribles des pontons. Les pontons étaient ces prisons flottantes où on enfermait les communards avant de les envoyer en déportation à l'île du Diable et autres îles de l'époque, quoi. Donc Rimbaud marqué par la Commune, oui. Rimbaud quelque part amoureux de la Commune, oui. Rimbaud communard, non. Mais comme le disait John Ford, quand la légende est plus belle que la vérité, imprime la légende.
Voilà, et puis comme dirait Jean-Claude Itzot, qui était aussi un auteur de la série Noire, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. Il y a aussi, me semble-t-il, un thème important tout au long du livre, c'est le pouvoir des images. Marceau va énormément se servir donc du premier western, va se servir des photos, et il est beaucoup question de ce qu'elles disent ou semblent dire, ces images, y compris des fois quand, comme à Père, vous le rappelez, déjà on faisait démentir les photos à cette époque-là.
Oui, c'est un thème qui me parle beaucoup, celui de l'image, surtout à une époque où l'image prend une importance énorme dans la communication, dans la vie, dans la perception de la réalité et dans sa mise en scène. Une image n'est que la mise en scène d'une réalité, y compris lorsqu'un photographe va prendre une photo sur le vif, il va faire un minimum de cadrage, et ce cadrage correspondra de toute façon à ce qu'il a dans l'esprit, à ce qu'il a dans l'œil. Donc une photo n'est jamais neutre, y compris avec des appareils aujourd'hui suffisamment rapides pour qu'on puisse prendre un nombre très impressionnant de photos à la seconde. De toute façon, la publication de la dite image correspondra toujours d'un choix, parce qu'en une seconde, il peut se passer beaucoup de choses, et l'image qui sera retenue sera la résultante d'un double choix, l'œil du photographe et celui de, par exemple, s'il s'agit d'un journal, de l'iconographe ou du rédacteur en chef. Et les premières effectivement retouches à la photographie, je pense que on peut les retouches historiques, j'entends, on peut les dater de la Commune, puisque Appert, qui était un très grand photographe, a laissé des photos de la Commune de Paris. Mais évidemment, tout le monde sait que ces photos étaient des photos posées, tout simplement parce que les temps de pose y obligeaient. Hein. Il y a peu de photos de mouvement à l'époque, c'est quasiment impossible. Et donc, il a fait poser des communards, pour certains qui se sont prêtés un petit peu au jeu, parce qu'évidemment, c'était trop beau d'avoir son image sur une barricade. Et puis, pour d'autres, par contre, donc déjà mise en scène, et pour d'autres, il a là carrément retouché l'histoire. Et j'ai pris comme exemple l'exécution des généraux Lecomte et Thomas par des communards, qu'Appert a immortalisé sur une photo qu'on ne doit plus trouver dans les livres d'histoire, mais qu'on a trouvé très longtemps.
On peut retrouver sur Internet. J'ai été y voir.
On voyait les deux généraux face au peloton, et voilà, dans une pose assez brave, qui était sans doute celle qu'ils ont eue pendant la mort. Le problème, c'est qu'Appert les a pas photographiés à ce moment-là, qu'il les a mis côte à côte alors qu'ils n'ont pas été fusillés ensemble, mais pour lui, il illustrait ce qui était dans son esprit la réalité. Alors il y avait une petite distorsion quand même, c'est celle que je vous ai dit, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Même si ça n'a pas été bouleversant, la différence, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc à partir du moment où on retouche l'histoire, on réécrit l'histoire, et l'image réécrit l'histoire.
Patrick Pécherot, je suis désolée, mais on est arrivé à la fin de notre interview alors qu'on avait plein de choses à dire, parler de Calamity Jane, de Annie Oakley ou encore de Louise Michel. Je vous remercie beaucoup, et puis j'invite tous nos auditeurs à découvrir ce très très beau livre, ce très beau roman qui est aussi plein de peintures. On parle des images, mais il y a des tableaux que vous brossez avec votre plume. Une plaie ouverte à la série Noire, chez Gallimard. Merci beaucoup Patrick Pécherot, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.